Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 24 secondes qui ne dérogera pas à sa tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra, bienvenue, welcome, welcome, tout ce genre de choses, que 24 secondes est une émission consacrée à la musique de film, cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent, oui, là, même sur votre téléphone, dans le tramway, bref. Ce jour de 24 secondes, nous allons évoquer la carrière d'un réalisateur français né le 25 mai 1925 à Boulogne-Billancourt et décédé, pas très loin de là, le 5 octobre 2012 à Neuilly-sur-Seine, le dénommé Claude Pinoteau. Alors Claude Pinoteau, lui, il était dans le bain puisque son frère s'appelle Jack Pinoteau et qu'il est réalisateur moins connu, Jack Pinoteau, que Claude Pinoteau. Leur père, Lucien, était régisseur et quant à Claude Pinoteau, eh bien, il sera l'heureux papa de la comédienne Karine Pinoteau. Que je ne connais pas, mais c'est pas grave. En tout cas, bon, il est déjà dans le bain. Du coup, il débute comme accessoiriste, régisseur, puis devient en 1948, c'est-à-dire qu'il a une vingtaine d'années à peine, assistant réalisateur et pas des moindres, puisqu'on le verra notamment au générique des Parents terribles de Jean Cocteau, des Enfants terribles de Jean-Pierre Melville. Et Jean Cocteau aussi. On le verra, excusez du peu, aux côtés d'Henri Verneuil pour le cultissime Un singe en hiver et même de Claude Lelouch pour lequel il sera notamment sur le tournage de L'Aventure, c'est l'aventure avec Brel, Ventura et quelques autres. Il y avait Aldo Macione déjà. Quelle époque. En tout cas, l'homme devra attendre un sacré paquet d'années pour tourner son premier film en tant que réalisateur, puisque c'est seulement en 1973, c'est-à-dire 25 ans plus tard, qu'il tourne un premier long-métrage avec Lino Ventura en vedette. Ça s'appelle Le Silencieux. Ma foi, c'est un policier qui a un bon succès. Et puis, son deuxième film est un succès encore plus conséquent, puisque en 1974, il tourne La Gifle, une comédie de mœurs dans laquelle on retrouve une très jeune Isabelle Adjani qui ensuite fera la carrière que l'on sait. Le film obtint même le prix Louis de Luc à l'époque, en tout cas l'occasion pour Claude Pinoteau bien d'enchaîner les succès commerciaux. On va écouter un extrait de bande originale, mais j'en avais pas pour ce film-là. En 1976, il tourne Le Grand Escogriffe avec Yves Montand. Et en 1979, il retrouve Lino Ventura. Et nous, on va écouter enfin un extrait de bande originale. Il retrouve donc Lino Ventura pour un film intitulé L'Homme en colère. Alors, j'ai déjà été assez bavard. Je voulais quand même dire une petite chose en teasing, c'est que Claude Pinoteau, il aura fait une chose dans sa vie pour laquelle, dans les siècles des siècles, on lui sera éternellement reconnaissant, mais j'y viens après. On écoute un extrait de L'Homme en colère dans 24 notes secondes. le lyrisme discret de Claude Bolling, qui nous a plutôt adapté à habituer, ce serait mieux, habitué à ses compositions jazzy. Donc le lyrisme discret de Claude Bolling pour un extrait de la bande originale de L'Homme en colère, un film de Claude Pinotto tourné en 1979, qui alors c'était un film qui mettait en vedette Lino Ventura, mais Lino Ventura à Montréal, donc qui rencontrait alors évidemment des francophones, mais aussi des anglophones, puisqu'il avait pour partenaire la troublante Angie Dickinson, que personne n'aura oublié dans Rio Bravo, je crois, mais à vérifier quand même. Il y avait aussi Donald Pleasance, Laurent Mallet, enfin bref, un mélange d'acteurs français, voire franchouillards, et d'acteurs anglo-saxons, on va dire, au sens large du terme. Et ma foi, c'était plutôt bienvenu. Le scénario était co-signé par Claude Pinotto et le grand Jean-Claude Carrière, et Claude Pinotto retrouvait donc avec grand plaisir Lino Ventura. On aura une autre occasion d'évoquer ces deux-là un peu plus tard, mais on va maintenant en venir à ce qui faisait le sujet même de cette émission, c'est-à-dire la chose qui fait que Claude Pinotto sera révéré dans les siècles des siècles. Ça se passe quelque part en 1980. Daniel Tosson et lui ont concocté un scénario et ils cherchent une actrice, et donc au dernier moment, raconte la légende, mais maintenant c'est devenu une légende, eh bien il trouve une jeune personne qui vient de s'inscrire dans une agence de mannequins pour enfants, une demoiselle Maupu, qui n'a encore jamais tourné, et au final, on aura ça. Didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems I'm
it's true. Feelings that aren't you. I feel something special about you. Dreams are my reality. A wondrous world where
c'était le 17 décembre 1980, comme le chante Richard Sanderson, qui n'a pas fait un autre succès depuis, My Life Has Changed Forever, puisque c'est le 17 décembre 1980 que paraît sur les écrans La Boum, un film de Claude Pinoteau, avec en vedette Sophie Marceau, puisque pendant le tournage, Claude Pinoteau l'a convaincue de trouver un nom un peu plus cinématographique. Elle a pris un plan de Paris, elle a trouvé l'avenue Marceau. Elle a dit « Chouette, ça ne change pas les initiales de mon prénom, futé la fille ». Et c'est ainsi que le 17 décembre 1980, nous sommes tous tombés amoureux de Sophie. Et quelques années plus tard, Sophie, je dois le dire, je t'aime. Je t'aime toujours. Chaque jour, tu es plus belle. Chaque jour, tu es plus la joie. Chaque jour, tu es plus la femme exemplaire que tu as été dès le 17 décembre 1980. Enfin, soyons plutôt justes, quelque part autour du 18 ou du 19 décembre, puisque le film sortit dans une indifférence à peu près générale, que la musique signée de Vladimir Cosma et cette fameuse chanson Reality chantée par Richard Sanderson avait été refusée par les plus grandes radios de l'époque. Et puis petit à petit, le succès se fit et le film cumula près de 15 millions d'entrées de par le monde. En France, ce fut un énorme succès. En Italie, ce fut le numéro 1 des entrées, toutes nationalités confondues, en 1981. Et bref, pour Claude Pinoteau et Daniel Thompson, donc sa co-scénariste qui s'inspirait de la vie de sa fille, qu'elle ne comprenait plus quelque part dans les années 80, ce fut un jackpot et surtout une sorte de phénomène générationnel, une sorte de bulle rose dans lesquels les parents de Sophie étaient rien moins que Brigitte Fosset et Claude Brasseur, que Bernard Giraudot jouait le rôle d'un professeur d'allemand. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Bernard Giraudot dans le rôle d'un professeur d'allemand, on a l'impression de parler de l'Antiquité ou alors d'une autre planète ou d'un monde parallèle quelque part dans les années 80 où ça se passait encore à peu près bien. Il y avait Denise Gray qui jouait le rôle de la grand-mère de Sophie. Denise Gray qui avait été elle-même jeune quelque part dans le cinéma français sous l'occupation. Bref, La Boum, phénomène à tout point de vue, un film qui défie, je dirais, tous les commentaires alors qu'on peut trouver Nunuche, etc., mais dans lequel il y a Sophie. Et donc, il n'y a rien d'autre à dire. Il y a Sophie, c'est le premier film où elle est en vedette, c'est le premier film tout court qu'elle ait jamais tourné. Et depuis, eh bien, Sophie, tu nous ravis. Voilà. On t'a déjà consacré une émission, Sophie. On en refera une autre. Bon, celle-là, tu m'excuses, Sophie, elle est sur Claude Pinoteau, l'homme qui t'a quand même découvert, donc on va la continuer. Mais on va quand même faire un supplémentaire. Merci, Sophie. Voilà, après ça va être un peu difficile d'enchaîner, mais on fait quand même un petit moment de grand amour autour de Sophie Marceau, qui était donc l'héroïne de La Boum, un film de Claude Pinoteau. Alors, aussi étonnant que ça paraisse, on vit ensuite évidemment La Boum 2, tournée en 1982 avec les mêmes. On vit en 1988 L'Étudiante, puisque Sophie est devenue étudiante aux côtés de Vincent Lindon. Ça aussi, ça paraît être une autre époque. Mais Claude Pinoteau, c'est toujours difficile de gérer un très très gros succès. Et du coup, eh bien, après avoir tourné La Boum 2, c'était un passage obligé. Il choisit de retrouver Lino Ventura, déjà évoqué au début de cette émission, pour un thriller qui ressemblait assez beaucoup à L'homme en colère déjà évoqué, un film intitulé La septième cible, dans lequel Lino Ventura était aux côtés de Léa Massari et de Jean Poiret, mais il y avait aussi dans des rôles moins importants Jean-Pierre Bacri, Roger Planchon et quelques autres, une sorte de polar un peu métaphysique qui bénéficiait d'une musique de Vladimir Cosma. Inutile de dire que depuis La Boum, Vladimir Cosma était devenu le compositeur attitré de Claude Pinoteau. Vladimir Cosma en tira un concerto pour violon que je vous conseille d'écouter. On va écouter un extrait un peu plus petit qu'un concerto, un extrait donc de La septième cible, un film de Claude Pinoteau tourné en 1984 dans 24 notes secondes. Un magnifique extrait, en tout cas à mon sens, de la partition de La septième cible, un film de Claude Pinoteau, une musique de Vladimir Cosma avec un violon très enlevé. Je vais essayer de vous retrouver quel est le nom du musicien qui joue. Honte à moi de ne l'avoir pas anticipé. En tout cas, un film qui a connu un succès assez conséquent, sur lequel Claude Pinoteau enchaîna avec L'étudiante déjà évoquée. Et en 1992, eh bien, il se lança dans un genre tout à fait différent, dans une très très grosse production, La neige et le feu, un film situé quelque part entre la libération de Paris, fin août 1944, ai-je besoin de le rappeler, et la fin de la Seconde Guerre mondiale, mai 1945, ai-je besoin de le rappeler, quelque part dans lequel le film évoque les amours de Géraldine Payas, alias Christiane, et de Vincent Pérez, alias Jacques. Un film, ma foi, plutôt bien mené, avec beaucoup de lyrisme, avec un entremêlement assez classique, mais bien vu, de la grande histoire et de la petite histoire. Petite histoire d'amour, mais grande histoire évidemment, de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un film qui présente un seul inconvénient, c'est que ce fut un insuccès commercial, mais alors absolument total, et à l'aune en fait d'un budget extrêmement conséquent, puisque vous vous doutez que pour reconstituer les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale d'une façon relativement réaliste, eh bien, il fallait beaucoup, beaucoup de moyens. Claude Pinoteau en eut, puisqu'il était le réalisateur de La Boum, La Boum 2, etc., etc. Mais ma foi, comme on dit, un peu... je dirais piteusement, le film ne trouva pas son public et ce fut donc un échec assez lourd qui obéra très largement la carrière ultérieure de Claude Pinoteau. C'est bien dommage. La musique en était signée, qui s'en étonnera, Vladimir Cosma. On écoute un extrait de cette bande originale, La neige et le feu, dans 24 notes secondes.
Thank you.
Voilà encore un bel extrait fort lyrique de la bande originale de La Neige et le Feu. Alors cette fois, ce n'est pas Claude Bolling, c'est Vladimir Cosma qui aura un monument de la musique de cinéma française qui aura vraiment touché à tous les gens pour un extrait donc de la bande originale de La Neige et le Feu. Alors je voulais quand même préciser, puisque j'étais un peu rapide dans la présentation, qu'en fait, la douce Géraldine Payas a deux amoureux dans le film. Certes, Vincent Pérez, déjà évoqué, mais aussi Mathieu Rosé au début de l'histoire. Je vous laisse éventuellement découvrir ce film. Peut-être que bien des années plus tard, il a gardé un certain cachet, en tout cas à l'époque. Et d'une certaine manière, ça signa plus ou moins la fin de la carrière de Claude Pinoteau, puisque après La Neige et le Feu, pardonnez-moi, il ne tourna plus que deux films de fiction, Cache-Cache, dont j'ignore tout, je l'avoue, en 1994, et Les Palmes de Monsieur Schultz, tourné en 1997, qui était un film, si on veut, puisqu'en fait, c'était l'adaptation à l'écran d'un grand succès théâtral, une évocation de la vie de Marie Curie et de son mari Pierre. Il y avait, sauf erreur de ma part, là encore, Isabelle Huppert dans le rôle principal et Philippe Noiret, quelque part, peut-être dans le rôle de Pierre Curie. C'était bienvenu, mais en fait, ce qui tenait le film, c'était la pièce de théâtre au départ, et les grandes ambitions cinématographiques de Claude Pinoteau, eh bien, étaient un peu éloignées. Je voulais aussi vous dire que c'était le grand Ivry Gitlis qui interprétait le concerto pour violon de Vladimir Cosma dans la septième cible déjà évoquée tout à l'heure. Comme je l'ai dit en début d'émission, eh bien Claude Pinoteau nous a quittés le 5 octobre 2012 à Neuilly-sur-Seine. Alors finalement, sa filmographie est assez réduite, à peine une dizaine de longs métrages entre 1973 et 1997. Alors, ce n'est pas pour remplir et ce n'est pas pour faire trop dans la nostalgie, j'ai été peut-être un peu baroque tout à l'heure, mais on va quand même se quitter, parce qu'on ne peut pas faire autrement, avec ça.
Didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be.
Cette émission est bien évidemment dédiée à Sophie et elle est terminée. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you. Bye bye. Foolishness.